OK, on va continuer notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. On avait commencé la Genèse. On va terminer la leçon de ce soir et après, il va nous en rester une autre sur la Genèse. Alors, jusqu'ici, on avait regardé l'arrière-plan de la Genèse et le but principal de la Genèse avec son plan, le plan du livre. On avait regardé aussi les principaux thèmes et les personnages clés. Et on avait regardé quelques versets clés. Et on avait examiné également les leçons du livre de la Genèse pour le peuple de Dieu de l'époque et aussi pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et on avait regardé également la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre de la Genèse. On était rendu là. On était rendu, ceux qui ont les feuilles, là, on était rendu au point 9, donc sur les enseignements de la Genèse. Alors, on regarde un petit peu le fait que entre la Genèse et l'Apocalypse, il y a une complémentarité. Autrement dit, si on compare un petit peu les deux livres, alors le livre de la Genèse, bien entendu, c'est le livre le commencement, tandis que l'Apocalypse, c'est la fin. La Genèse, c'est l'anticipation. Autrement dit, on anticipait éventuellement l'arrivée du Messie qui nous était promis, tandis que dans l'Apocalypse, on a vraiment l'accomplissement, on a la victoire finale de Jésus-Christ. Dans la Genèse, on a le fait, la fondation, tandis que dans l'Apocalypse, on a le couronnement. En anglais, ils appellent ça le capstone, c'est la pierre du dessus. Donc, il y a des similarités entre les deux livres. Quand on regarde dans les deux livres, on parle de l'arbre de vie dans la Genèse, on parle de l'arbre de vie dans l'Apocalypse, on parle de rivière, l'épouse, la marche de Dieu avec l'homme. Alors, il y a des contrastes aussi. Donc, il y a des similarités, mais il y a aussi des contrastes entre les deux livres. Dans la Genèse, le paradis est fermé versus le paradis qui est ouvert dans l'Apocalypse. Dans la Genèse, on a la dépossession, tandis que dans l'Apocalypse, on a la repossession. Dans la Genèse, on a la malédiction. Dans l'Apocalypse, on a la bénédiction. Alors, on a aussi dans la Genèse la perte de l'arbre de vie, tandis que dans l'Apocalypse, on a la reprise de l'arbre de vie et on a l'entrée de la mort versus la sortie de la mort. C'est intéressant de faire ces rapprochements-là, des fois entre deux livres, qui présentent des choses. On parle encore de Christ, mais on en parle d'une façon différente. Donc, on avait regardé un petit peu comment le livre était divisé. Les 11 premiers chapitres, c'est les livres de la création et de la chute. Et on avait également le déluge et la tour de Babel. Donc ça, c'est dans les quatre principaux événements des 11 premiers chapitres de la Bible, dont celui de la création. Bien entendu, dans le psaume 93, au verset 5, on lit « Tes témoignages sont entièrement véritables. » La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Donc, le verset 1 du livre de la Genèse est un témoignage divin et non pas une théorie humaine. Une théorie, c'est une interprétation des faits, tandis qu'un témoignage, ce sont des faits eux-mêmes. Psaume 19, verset 7, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Le récit de la création est sublime en simplicité. Il ne donne pas de description détaillée et il ne donne pas non plus de date. La déclaration du début et du créa les cieux et la terre est ce qu'on pourrait appeler axiomatique. Quand on dit que quelque chose est axiomatique, ça veut dire qu'on prend la proposition et la phrase comme étant évidente. Des fois, que ceux qui ont fait des études en géométrie, ça fait la même. On avait des axiomes. Un axiome, c'est une vérité au départ qu'on ne conteste pas. Tout le monde croit en cette vérité-là. Donc, le premier verset de la Genèse dénonce avec autorité les principales philosophies humaines. Il est bizarre que dans un verset ou deux, toutes les principales philosophies des hommes de toute l'histoire sont défaites, brisées. L'athéisme, au commencement, Dieu. Athéistes, ils disent qu'il n'y a pas de Dieu, donc ça vient tout briser leurs affaires. Le polythéisme, ça ne dit pas au commencement les dieux, c'est au commencement Dieu, au singulier. Le fatalisme, donc tout ça, autrement dit, est arrivé comme par un concours de hasard. C'est ce que la théorie de l'évolution aujourd'hui enseigne. Mais quand on dit « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », il n'y a pas de fatalisme là-dedans. On a un commencement, on sait qui l'a fait, puis on sait qu'est-ce qu'il a fait. L'évolution, bien entendu, ça c'est de plus en plus populaire. Je me souviens à Rouen, une femme qui était venue me voir à un moment donné, puis elle était devenue chrétienne, elle se disait qu'elle était chrétienne. Puis quand elle a vu quelle position qu'on avait sur la Genèse, sur l'évolution, pour elle, elle était tout scandalisée. Dis-moi pas, vous êtes contre la science. On n'est pas contre la science. On est contre la supposée science. Pas pareil. La science puis la supposée science. Le panthéisme, c'est ceux qui voient Dieu partout. Et ça, on voit ça définitivement autour de nous aujourd'hui. Le panthéisme, ça veut dire que Dieu est dans la chaise, est dans l'arbre, est dans la fleur, est en nous. Et quelque part, les gens vont jusqu'à dire « Dieu, c'est nous ». Et le panthéisme, c'est voir Dieu dans toute sa création et de faire une équation entre Dieu et sa création. Autrement dit, la création devient pour eux Dieu. Alors que la Bible nous enseigne bien clairement, la création, c'est une affaire, puis Dieu est au-dessus. Il est à l'intérieur de toute sa création, ça c'est vrai, mais il n'est pas... On ne peut pas dire que la création, c'est Dieu. Dieu, c'est plus que la création. Et bien entendu, le matérialisme qui donne l'éternité à la matière, selon les défenseurs de l'évolution, la matière a toujours existé, c'est juste une question de transformation. Ou elle a toujours existé, ben non, ils disent qu'il y a eu le grand Big Bang. Alors, ça, c'est une affaire que je tiens beaucoup à reviser avec vous ce soir, la question des 6 jours de la création. Parce que c'est rendu un problème énorme, répandu dans même chez beaucoup de chrétiens qui voient ça comme des périodes et qui voient ça comme des millions d'années. Et ça, quelque part, si on ne corrige pas ça, on part sur le mauvais pied dans les Écritures. Parce qu'à cause du fait de Adam, le second Adam, il y a eu une création d'un homme. Et si on croit à l'évolution, il n'y a pas eu d'Adam. C'est une transformation de certains atomes qui se sont complexifiés et qui sont devenus éventuellement un petit animal qui, lui, a évolué. Puis, comme vous avez déjà vu dans des livres de biologie, comment ils nous présentent ça, là. Mais ça, on peut dire c'est une conception païenne. Je regrette, mes amis, mais c'est bien plus. C'est rentré dans les églises à pleine porte. Même les chrétiens doutent de la création de Dieu, de la création en 6 jours de 24 heures. J'avais imprimé, ceux qui ont les feuilles, vous allez pouvoir le suivre avec moi. Lawrence Tisdale, on a plusieurs d'ici qui étaient à la conférence que Lawrence Tisdale, lorsqu'il est venu à Mégantic ici, c'est un homme qui a un doctorat. Je me souviens plus c'est quoi, en quoi, là, mais c'est des sciences physiques, chimie, biologie, et d'autres sciences semblables, là, paléontologie, toutes ces affaires-là. C'est un gars qui était très, très, très... il a une formation scientifique très, très avancée. Alors, quelque part, moi, j'avais déjà dit, quand on a étudié la Genèse ici, les personnes qui ont des doutes, là, avec l'évolution... Moi, personnellement, ce problème-là, ça fait longtemps qu'il est réglé dans ma tête. Très, très longtemps. Mais je veux dire, ceux qui ont encore des problèmes, on est-tu dans des évolutionnistes ou on est-tu des créationnistes? Moi, je dis que la Bible enseigne d'une façon très, très claire. le créationnisme. Mais comment ça se fait qu'il y a tant de chrétiens qui sont troublés par cette histoire-là? Savez-vous, c'est quoi la réponse? C'est simple. C'est parce qu'ils donnent plus de foi à la science qu'à la Bible. C'est pas plus compliqué que ça. Quand tu donnes plus de foi à la science qu'à la Bible, c'est que tu te ramasses avec des problèmes semblables. Alors, Lawrence Tyndale, il a écrit dans un site web qui s'appelle Croissance, C-R-O-I-X-S-E-N.net, création-6jours.php. Si quelqu'un va dans ce site-là, ceux qui ont les... Allez-y. Et il a écrit un texte pour démontrer que la création s'est faite en 6 jours littéraux. 6 jours, pour lui, c'est pas 6 époques d'un million d'années chaque. Là. Pour lui, un jour, c'est 24 heures. Et là, il, dans son article, il vient démontrer pourquoi il est certain, selon lui, que c'est des jours de 24 heures. Alors, on va le lire ensemble, parce que je calcule, c'est important, surtout de nos jours, que les gens aient des convictions solides sur ce côté-là. Parce que si on commence mal avec la Genèse, dites-vous une chose, on va traîner bien des problèmes théologiques avec nous autres durant toute la Bible. Donc, ça dit, la Trinité évolutionniste se compose du temps, des mutations et de la sélection naturelle. Eux autres, leurs affaires, c'est que ça a commencé tranquillement, ça a été des petites molécules qui se sont accumulées, c'est devenu plus complexe, c'est devenu un petit animal, puis c'est devenu, puis ça a grossi, puis ça a été d'une grenouille, on est passé à d'autres choses. Et on est fini par, c'était le dernier maillon, selon eux, serait le singe, et on serait des descendants du singe. Et c'est des affaires que tout le monde croit ça aujourd'hui, parce que on enseigne ça à pleine porte dans les livres. Je me souviens, quand j'ai fait mon secondaire 5, on avait un livre de biologie, et c'est ce qu'on nous enseignait à pleine porte dans des livres de biologie. C'est ce qu'on nous enseignait. Et c'est présenté comme de la science. Alors, tous les gens sortent des écoles avec ça de plein la tête. Et ceux qui se disent qu'ils croient à la science, qui croient à ce que la Bible dit de la création en 6 jours, passent pour des arriérés. Et souvent, les chrétiens, à cause de cette pression sociale-là qui est énorme, on a peur de s'affirmer. Et on a peur d'aller chercher les arguments qu'il faut pour dire c'est 6 jours et la création n'est pas là depuis des milliards d'années, comme il dit, des millions d'années. C'est entre 6 et 10 et 15 000 ans aux alentours. En tout cas, c'est ça. Alors, la Trinité, ça se compose de 3 choses. Le temps, selon eux, c'est des millions d'années pour développer. Les mutations, ça veut dire que les animaux, si ça a parti tout petit, puis que ça grossit, les formes changent avec le temps et que les transformations se font. Et il y a aussi la sélection naturelle. Selon eux, le principe, c'est que c'est toujours le plus fort qui gagne, puis la chaîne, elle finira jamais. Alors, le temps, pour eux, figure parmi les sujets les plus contestés du débat évolution-création. On va le lire ensemble parce qu'on a le temps et pour moi, c'est important. Pour l'évolutionniste, si le temps n'existe pas, l'évolution n'a pas pu arriver. L'évolutionniste suppose qu'avec assez de temps, l'impossible deviendra possible. Que l'hydrogène, à partir du Big Bang, deviendra homme en 15 milliards d'années par le biais du hasard. Donc, il y a comme 2 petits atomes d'hydrogène. Puis le hasard fait que ça prend 15 milliards d'années, puis au bout de 15 milliards d'années, là, c'est rendu un homme, tout ça. Là. Mais c'est du hasard. Quand on connaît la complexité du corps humain, n'importe qui s'est déjà plongé le nez un petit peu dans l'anatomie puis dans la physiologie, se rend compte jusqu'à quel point c'est d'une complexité. Juste le système nerveux est déjà lu quelque part. Que toute la vie d'un homme très intelligent qui l'étudierait uniquement que le système nerveux, il y en a 12 ou 15 systèmes, là, qui n'étudierait qu'uniquement le système nerveux, toute sa vie ne suffirait pas. Puis tout ça, ce serait le fruit du hasard. J'avais déjà lu dans un livre, ça prend beaucoup de foi pour être athée. Donc, pour le créationniste, la question est autant théologique que scientifique. La Bible permet-elle un compromis avec le scénario évolutionniste? Moi, ma réponse, c'est non. Puis pour les créationnistes, les scientifiques chrétiens, la réponse est aussi non. Est-ce que les six jours de la création de la Genèse, au chapitre 1, représentent six rotations de la Terre ou six périodes de temps indéfinies? Tout le grand combat qu'il y a entre les évolutionnistes et les créationnistes tourne autour de cette question-là. Est-ce que les six jours de la Bible dont on parle, le jour 1, jour T, est-ce que ça tourne? Est-ce que c'est... Parce qu'une journée de 24 heures, c'est la Terre fait une rotation sur elle-même. Est-ce que c'est ça? Ou si c'est des périodes d'années qu'on ne sait pas comment qui durent, qui sont des millions d'années? Alors, c'est ça la question. Pour répondre à la question scientifique, je vous encourage à visiter le site web creationist.ca. Donc, on a dans ce site-là énormément d'articles qui traitent du sujet. Pour ceux que ça peut fatiguer. Alors, une des choses qu'il mentionne, il dit « Nous observons depuis les années 1830 un changement dans l'interprétation biblique du mot « yom ». Alors, le mot pour « jour » en hébreu, c'est le mot « yom ». Donc, il dit que depuis 1830, on n'interprète plus le mot « yom » comme étant un jour, mais ça correspond avec le début de l'évolution. De la création. Alors, ce changement est intervenu depuis que Charles Lyell a publié son livre qui s'appelle « Les principes de la géologie » dans les années 1830 à 1833. C'est à partir de cette époque que les théologiens ont changé leur manière de comprendre les premiers chapitres de la Genèse et ont élevé la science et le naturalisme à un niveau quasi divin. Comme on dit, on fait passer la science. Et tous ceux qui, aujourd'hui, placent la Bible avant la science, aux yeux du monde, passent pour des fous. Alors, la science interprète maintenant la parole de Dieu, et non le contraire. Dans la présente communication, je vais énumérer 8 des principales raisons qui permettent de croire que le premier chapitre de la Genèse doit être compris à la lettre, tel qu'il est écrit, et que les six jours de la création représentent bien six rotations de la Terre. Autrement dit, Tisdale, il a voulu défendre le point de vue que quand on parle de « il y eut un jour, il y eut un matin », on parle d'une journée de 24 heures. On ne parle pas d'une période indéfinie de millions d'années. Tout à l'heure, on parlait de 15 milliards d'années. On ne parle plus de la même chose, là. Alors, je vous donne mes 8 raisons que lui y avance pour définir que le mot « yom » utilisé dans la Genèse 1, ça veut dire un jour, une rotation de la Terre, donc une journée de 24 heures, comme nous on les connaît. Donc, la première raison, il dit l'usage primaire du mot « yom ». Le mot hébreu « yom » est utilisé plus de 2000 fois dans l'Ancien Testament. Dans plus de 1900 fois, soit 95% des fois, le terme est clairement utilisé dans le sens d'une période définie d'une journée. Il serait donc extraordinaire, considérant son contexte, de donner au mot « yom » en Genèse 1 une autre signification qu'une rotation de la Terre. Voyez-vous, ils disent que dans l'Ancien Testament, il y a 2000 fois le mot « yom » présenté, qui veut dire « jour ». Puis sur les 2000 fois, il y a plus de 1900 fois que le mot veut dire « jour », une journée de 24 heures. Il dit pourquoi que 95% du temps que le mot est utilisé, il veut dire 24 heures. Puis là, tout d'un coup, il ne veut plus dire 24 heures, il veut dire des périodes indéfinies de millions d'années. Deuxième raison. Il dit le qualificatif de « yom » requiert une journée de 24 heures. Dans plus de 200 cas, quand le terme « yom » est utilisé avec un numéro qui le précède, il fait référence sans exception à une période de 24 heures. Troisièmement, les termes « soir » et « matin » requiert une période de 24 heures. Il y eut un soir, il y eut un matin. Le mot « soir » utilisé 52 fois et le mot « matin » utilisé 220 fois réfèrent toujours à des journées normales, même quand ils sont utilisés à d'autres endroits dans l'Ancien Testament. Quatrièmement, Genèse 1,14 distingue clairement les jours des années. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ainsi, le jour Yom et les jours Yamim ne peuvent être autre chose que des journées normales. Cinquièmement, Exode 20, verset 11, qui parle du quatrième commandement, se réfère à une journée littérale, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et tout ce qui y est contenu. Il n'y a qu'une manière d'interpréter ce commandement écrit de la main de Dieu. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Là, il parle du sabbat, là, le quatrième commandement. Il parle-tu d'une période d'un million d'années ou il parle encore d'une journée de 24 heures? C'est clair qu'il parle d'une journée de 24 heures. Sixièmement, la symbiose ne serait pas possible sans la création en 6 jours. La symbiose est un terme biologique qui explique les relations bénéfiques et essentielles entre 2 types d'organismes. En effet, il existe beaucoup de plantes qui ne peuvent se reproduire sans le concours d'insectes particuliers, d'oiseaux ou d'autres animaux. L'arbre nommé Calvaria sur les îles Mauritius était dépendant des oiseaux nommés dodo pour sa reproduction. Ces derniers furent tous exterminés en 1681. Quelques spécimens de cet arbre existent encore aujourd'hui, mais ne peuvent plus se reproduire. Les plus jeunes spécimens sont âgés de plus de 300 ans. Aucune reproduction n'est possible sans les oiseaux en question. Et il donne des exemples aussi pour les papillons du Yucca. Pour qu'une telle symbiose puisse être compréhensible entre une plante et un animal, nous sommes obligés d'admettre la chronologie de 6 jours décrit dans Genèse 1. Les plantes créées au 3e jour ont eu besoin des animaux qui ont été créés au 5e et 6e jour, et cela rapidement. Septièmement, les rabbins juifs s'accordent pour une interprétation littérale des 6 jours. Le rabbin Y. Chesner nous informe que le judaïsme a toujours reconnu que les jours dans Genèse sont d'une période de 24 heures. Le Talmud aussi est compris comme interprétant les jours comme étant des périodes de 24 heures. Huitièmement, le problème théologique du péché originel et de la mort. Moi, je trouve que ça, c'est l'argument, c'est le gros argument. Paul déclare en Romains 5, versets 12 à 14, et là, je vous lis ce qu'il dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. De qui il parle? Il parle d'Adam. Si on parle d'évolution, il n'y a pas d'Adam. Alors il dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, la conséquence du péché fut la mort, et ceci ne pouvait exister avant que Adam et Ève aient désobéi au Créateur. L'idée que la mort et la souffrance représentées par les fossiles se sont produites durant 500 millions d'années avant Adam n'est pas une position défendable théologiquement. Autrement dit, je ne sais pas si vous voyez le problème, non? C'est que la création, s'il y a eu l'évolution, c'est qu'il y a eu de la mort avant la chute. Et puis rien tient dans la Bible. Je ne sais pas si j'espère que vous saisissez ce que je veux dire. Parce que s'il y a eu évolution, comme eux, ils disent, là, Dans le fond, il y a eu la mort avant la chute. Et la chute, c'est Dieu qui a, comme punition de la chute, qui a dit, tu mourras, et l'homme s'est mis à mourir à partir de ce moment-là. Mais ça veut dire que sinon, si tu crois à leur théorie à eux, tu es en train de dire que la mort existait avant même que la chute arrive. Et là, il n'y a plus rien qui tient debout. Dans toute la Bible, si tu crois à ça, tu ne peux pas croire au premier Adam. Jésus lui-même utilise l'image du premier Adam. Puis les Écritures utilisent l'image du second Adam pour le représenter, lui, Jésus-Christ. À quelque part, si tu embarques, je pense que les gens ne se rendent pas compte, des fois les chrétiens qui sont un peu mêlés, se rendent pas compte que, dans le fond, en acceptant une pareille théorie, ils sont en train de tout jeter leur foi à terre. Puis ils le font volontairement. Ils le font au nom de la science qui serait plus connaissante que Dieu lui-même quand il dit comment la terre s'y est faite. Il n'a pas voulu nous dire le mécanisme, il n'a pas voulu nous dire comment il a créé tout ça, puis toute la complexité de ça. C'est pour ça qu'il a voulu nous dire. Il a juste voulu nous dire que c'est lui qui a parti tout ça. Puis il a voulu nous expliquer pourquoi l'homme est pécheur, puis pourquoi Jésus est venu et tout ça. Alors, quelque part, si vous croyez à l'évolution, votre théorie de la Bible, je comprends pourquoi que les évolutionnistes ne sont pas des croyants. Ils ne peuvent pas être croyants. Croyants et évolutionnistes, c'est contradictoire dans les termes. Donc, en conclusion, les six jours de la création sont bien des périodes de 24 heures, ou donc une rotation complète de la Terre sur elle-même, et il ne peut être interprété autrement si vous êtes un véritable croyant. De multiples raisons permettent de le confirmer. Ne nous laissons pas influencer par des fables et des fausses doctrines qui encouragent un compromis entre la Trinité évolutionniste et la parole de Dieu. Ça a l'air tellement innocent. Moi, j'ai déjà discuté des affaires de même avec du monde. Puis, bon, qu'est-ce que ça change? C'est parce que t'as pas raisonné. Assis-toi, là. Réfléchis. Puis essaye de raisonner ton affaire. Si tu raisonnes ton affaire, tu ne peux pas tenir ça, cette affaire-là. Alors, il y avait encore d'autres, on ira pas, je ne le lirai pas aujourd'hui, là. Je vais vous laisser de le lire vous-même. Il y a un autre petit paragraphe qui s'appelle « Réfutation des fausses interprétations de Genèse 1 » par le pasteur réformé Paulin Bédard. Je trouve que Paulin Bédard, il a écrit sur ce sujet-là, et je trouve qu'il a fait un travail extraordinairement très fort et très solide pour dénoncer ces affaires-là. Je vous laisse le lire. C'est important que vous soyez au courant de ça, puis que vous essayez, pas nécessairement d'être capable de défendre ça scientifiquement, mais au moins de connaître que les théories existent, et qu'il y a des gens qui sont capables de les enlever. Et une chose qui marche beaucoup de nos jours, là, c'est numéro 3, là, la théorie des longues périodes. Et c'est là qu'on embarque. Je ne veux pas aller plus loin. Puis le cadre littéral, numéro 4 aussi. Ça marche pas mal dans les milieux chrétiens aujourd'hui. C'est même surprenant, je vous le dis. Alors, une des choses importantes à la création, la deuxième qu'on voit dans le livre de la Genèse, c'est la chute, bien entendu. La chute nous raconte comment la tentation est arrivée, comment Ève a cédé, puis ensuite comment elle a emmené son mari à tomber avec elle. Et, bien entendu, un autre événement important du livre de la Genèse, c'est le déluge. Alors, il se serait écoulé 1600 ans entre la chute et le déluge. Et encore là, le déluge, il faut croire au déluge universel. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de théories qui courent, qui disent que c'est juste un petit dérèglement météorologique qui était uniquement local. Si vous prenez la peine d'aller fouiller dans ceux qui sont des véritables croyants qui sont capables de défendre les positions, vous allez voir qu'il y a des gens très solides qui sont capables de se tenir en arrière de tout ça. Là. Et bien entendu, la fameuse tour de Babel. Et l'application, il n'est rien qu'une, j'ai mis, mais elle est tellement importante. Le livre de la Genèse nous force à faire des choix de foi. Créationnisme ou évolutionnisme? Ça, t'es déjà dans le premier chapitre de la Bible, puis t'as déjà des choix à faire. Je crois-tu Dieu ou je crois la science? Le déluge comme phénomène universel de jugement ou comme un petit phénomène météorologique qu'il y a eu à l'époque qui était uniquement local? La création directe par Dieu du premier homme et de la première femme, Adam et Ève. La réalité du tentateur. Déjà, il faut pas que tu prennes dire que Satan, c'est juste une influence ou c'est le mauvais côté de ta personne. C'est un être intelligent qui vient. Alors, et d'autres affaires qui sont mentionnées. Ça dit la supériorité d'une race sur une autre. Aujourd'hui, ça fait pas tellement longtemps la guerre 39-45, là. C'est pas de 3 siècles, ça. Et ils s'étaient rendus extrêmement forts parce que les Allemands s'étaient convaincus qu'ils étaient une race supérieure et qu'ils pouvaient, à ce titre-là, imposer leur volonté au monde entier. Pourtant, un seul verset des Écritures détruit ça. Dans Acte 17, verset 26, ça dit que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Et plein d'autres choses comme ça. Alors, dès le début de la Genèse, Dieu te place devant des choix qu'il faut que tu fasses, croire Dieu ou croire les hommes. Alors, la création de 6 jours de 24 heures et bien d'autres, c'est un livre à étudier, à méditer et à appliquer. Que le Dieu créateur, souverain et rédempteur soit loué éternellement. Amen.
Amen.